Bonjour, nous sommes Juliette et Zoé. Bonjour Juliette.
Bonjour.
À l'occasion de la 35e semaine de la presse et des médias à l'école, qui a eu lieu la semaine dernière, nous accueillons Jérémy Demey, journaliste. Bonjour Jérémy Demey.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et également pigiste pour Le Canard Enchaîné. Vous êtes également intervenant à la radio et au journal télévisé. Vous êtes diplômé de l'Institut pratique du journalisme. Vous travaillez dans le milieu de la presse depuis le début des années 2000. Vous êtes également un des membres fondateurs de l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, OFALP. Aujourd'hui, vous allez pouvoir nous éclairer sur les enjeux qui entourent ce monde si particulier qu'est la presse. À une époque où la liberté de la presse est souvent attaquée, alors que les formes de médias se diversifient, que les fake news se répandent, il est d'autant plus important de garder un esprit critique sur les informations. Tout d'abord, en quoi consiste exactement votre rôle de journaliste pigiste au sein de différentes rédactions ?
Mon rôle, c'est tout simplement faire du journalisme. Faire du journalisme, c'est être un lien entre l'information et l'informé, apporter une plus-value qui est l'analyse, la mise en perspective. C'est ça uniquement le métier de journaliste, c'est la mise en perspective des faits et être un lien entre l'information et l'informé.
Et est-ce qu'il y a des différences entre journaliste classique qui appartient, enfin qui écrit au sein d'une seule rédaction et journaliste pigiste?
Pas forcément, à part le bulletin de paye à la fin du mois qui n'est pas toujours régulier de mon côté, contrairement à un journaliste qui est en CDI par exemple dans une rédaction. Sinon, il n'y a pas tellement plus de différence, sauf que quand il y a un sujet par exemple qui peut m'être refusé sur un média, pour tout un tas de raisons, des raisons éditoriales, parce que ça correspond pas à la ligne éditoriale, ou parce que, enfin voilà, pour tout un tas de raisons, eh bien ce sujet-là, moi je peux le mettre ailleurs aussi, enfin essayer de le vendre tout simplement sur un autre média. Ensuite, quand on est journaliste en CDI dans une rédaction, rien ne nous empêche de pouvoir aussi faire des piges dans d'autres rédactions. Donc moi j'encourage tous mes confrères qui sont en CDI aussi à essayer de trouver des piges ailleurs pour pouvoir s'amuser ailleurs, quoi, pour le coup et autrement.
Et selon vous, quelles sont les différences entre le format de presse écrite plutôt traditionnel et les médias audiovisuels comme la radio et la télévision ?
C'est pas la même façon d'aborder un sujet. Là, j'ai eu l'occasion de le faire assez récemment où j'avais un sujet, je devais le faire à la fois pour la radio mais aussi pour la télévision, et c'est pas la même manière d'aborder le sujet, tout simplement parce que à la télévision c'est du visuel et il faut faire une démonstration visuelle, on raconte une histoire mais avec beaucoup d'éléments visuels, pour ça qu'on appelle ça la télévision, alors qu'en radio, voilà, tout simplement c'est du son qu'il faut ramener, et on pouvait aussi à partir du son pouvoir faire une articulation entre les différents d'interview pour expliquer l'histoire, alors qu'en télé c'est autre chose, et en presse écrite c'est encore une autre façon d'aborder d'aborder une information, puisque là pour le coup on n'a pas besoin d'images, on n'a pas besoin de son, on doit tout raconter de nous-mêmes avec notre plume. Donc c'est vraiment trois manières très différentes de travailler, et c'est encore une autre manière quand on travaille aussi pour internet, puisque là on peut avoir du son, on peut avoir de l'image mais aussi de l'écrit. Donc ce sont quatre médias qui sont complètement différents mais vraiment complémentaires, c'est ça qui est très chouette.
Très bien, et à présent nous allons aborder un sujet un peu plus précis, la liberté de presse. Or, pour comprendre un sujet, il est important d'en définir les termes. Donc, comment définissez-vous la liberté de presse et en quoi est-elle essentielle selon vous, Jérémy Demey ?
C'est pas facile de donner une définition comme ça sur la liberté de la presse. Mais ce qui est sûr, c'est que la liberté de la presse, normalement, est garantie par la loi. Il y a une loi qui est fondamentale dans la presse, c'est la loi de 1881, qui donne tous les droits pour les journalistes, mais aussi leurs devoirs. C'est-à-dire de ne pas diffamer, c'est-à-dire de toujours rester le plus honnête possible vis-à-vis d'un fait. Et cette loi, malheureusement, est de plus en plus malmenée par d'autres lois. On a eu la loi sur le secret des affaires, par exemple, qui est une transposition d'une directive européenne qui empêche la publication d'un article ou d'une émission télé ou d'une émission radio quand il y a des données un petit peu trop économiques. Si par exemple je fais une enquête sur une entreprise en particulier, que cette entreprise je sais qu'elle pollue pour tout un tas de raisons et que malgré les relances de l'État ou même des syndicats sur place ou même d'une association de riverains en me disant il faut respecter la loi sur la pollution, si à partir du moment où moi je diffuse des documents en interne de cette entreprise, l'entreprise aura le droit de faire en sorte que le sujet ne puisse pas passer avant même sa diffusion. Donc c'est une censure préalable, ça c'est clairement inadmissible. Et d'autant qu'à la base, le secret des affaires était fait pour lutter contre l'espionnage industriel. Or, un journaliste n'est ni un espion, ni quelqu'un de malfaisant. Son seul but, c'est de donner des clés d'information au public pour qu'il puisse comprendre les situations. D'autres lois viennent aussi contrecarrer largement les principes de la loi 1881. On le voit, il y a eu le secret des affaires que je vous ai expliqué, mais il y a aussi le secret défense où on ne sait pas comment se gère ce secret défense, qu'est-ce qui peut être couvert ou non par le secret défense puisqu'il n'y a pas de normes. En fait, n'importe quoi peut être secret défense, il suffit qu'il y ait un fonctionnaire dans un ministère qui dise « c'est classé secret défense » et voilà. Or, les citoyens ont le droit d'avoir accès à certaines informations, je ne dis pas toutes les informations secret défense, il est normal qu'un État puisse garder certains secrets, mais quand par exemple Ariane Lavrieux pour le site Disclose explique que l'armée française a été utilisée par le président égyptien pour abattre des civils égyptiens opposants au régime en place, et que pour ce faire, bon, elle a eu non seulement des témoignages de militaires, évidemment sous couvert de l'anonymat, mais aussi des documents secret défense, et qu'elle a été placée en garde à vue, son domicile a été perquisitionné, et pire, du matériel professionnel lui a été confisqué, c'est clairement inadmissible. Et malheureusement, il y a de plus en plus de lois comme ça qui viennent contrecarrer la liberté de la presse, mais je ne vais pas continuer mon monologue, je vous laisse me reposer des questions.
Et la liberté de garder secrètes les sources utilisées dans les enquêtes journalistiques est souvent remise en cause, notamment dans le cadre judiciaire. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette liberté est primordiale ?
Tout simplement, s'il n'y a plus de source, il n'y a plus d'information. Une source, c'est quoi ? C'est une personne, à un moment donné, qui a accès à certaines informations et qui ne lui plaisent pas. Très souvent, ça peut être un fonctionnaire, par exemple, qui dans son administration, s'aperçoit que son responsable est corrompu ou laisse passer des choses, soit par fainéantise, soit par excès de zèle, ou je ne sais quoi. Il a les documents, mais lui ne peut pas les utiliser en tant que tel. Donc il contacte un journaliste, et le journaliste fait son travail pour faire en sorte de faire éclater la vérité, tout en gardant confidentielle cette source. C'est-à-dire confidentielle que, même en garde à vue, ou même devant un juge, on a le droit et le devoir de garder le silence. C'est-à-dire, si on nous demande « mais comment vous avez eu cette information-là ? Qui vous a donné ce document ?» Eh bien, on a le droit de dire au juge, par exemple, « eh bien non, je ne vous répondrai pas, monsieur le juge, vous n'avez pas le droit de me demander cette question-là. » En revanche, ce système-là de protection des sources est largement contourné. Quand il y a la perquisition, par exemple, d'Ariane Lavrieux, suite à son enquête sur Disclose, le fait qu'ils aient récupéré du matériel professionnel, c'est pas anodin. Les policiers n'ont pas besoin d'avoir un nouvel ordinateur pour le coup, quelle que soit la puissance de l'ordinateur qu'avait Ariane. En revanche, pour lui avoir pris, ils vont pouvoir exploiter toutes les données qu'il y avait dedans. Et peut-être, à un moment donné, retrouver des mails justement d'une de ses sources au sein de l'armée en lui disant « Ok, on se retrouve à tel endroit pour faire une interview » ou de « Je vous ai envoyé les documents » ou tout simplement. Et à partir de là, en fait, en traçant cette source, eh bien, ça va faire taire tous les autres. Les sources vont plus faire confiance aux journalistes et donc ne vont plus s'ouvrir et donc il n'y aura plus d'informations. Et c'est gravissime. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le statut de lanceur d'alerte. Mais même ce statut qui a été redéfini dans la loi Sapin 2 est pas efficace. Il faut encore plus protéger les lanceurs d'alerte, mais aussi protéger toutes les sources, quelle que soit la forme de ces sources. C'est absolument primordial.
Donc, comme on l'a compris, la liberté de garder secrète les sources est très très importante et souvent remise en cause, voire bafouée. Et donc, d'après ce que vous nous avez dit, considérez-vous que la liberté de presse n'est pas en bon état dans notre pays ?
Oui, 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 c'est pas catastrophiste de dire ça et encore moins caricatural. Il suffit tout simplement pour ça De regarder tout ce qui se passe. En ce moment, il y a les états généraux de l'information pilotés par l'Élysée et Emmanuel Macron, où tous les vrais débats sont souvent contournés. Ou en tout cas, c'est très difficile pour les groupes de travail de faire leur mission, pour le coup, parce qu'il y a des intérêts très, très divergents. On le voit sur la liberté de la presse par rapport à la concentration des médias. Ça ne vous aura pas échappé qu'actuellement, des milliardaires et des grands capitaines d'industrie ont un nouveau loisir, c'est d'acheter plein de médias. Pour eux, ça a deux utilités. Premièrement, ça permet d'accentuer leur influence sur le pays ou sur le monde économique, par exemple. Mais en plus, ça leur permet de diminuer leurs impôts, tout simplement parce que la presse, majoritairement, est souvent déficitaire et qu'ils appartiennent à des grands groupes et que quand il y a une société qui est en déficit, forcément, ils payent moins d'impôts sur les sociétés. Donc ça a ces deux utilités-là. Mais le problème, c'est que ça muselle encore plus les journalistes. On le voit avec le coup de collier qu'a donné Vincent Bolloré sur tout le groupe Canal+, c'est-à-dire la chaîne Canal+, mais aussi iTélé, enfin qui est devenue CNews, et ainsi de suite. La première chose qu'il a fait quand il est arrivé à la tête de Canal+, c'était de censurer une enquête. Une enquête qui était portée par Jean-Pierre Canet et Nicolas Vescovacci sur le Crédit Mutuel. Pourquoi le Crédit Mutuel ? Parce que le PDG de l'époque, Monsieur Lucas, était un très très bon copain à Bolloré et que les journalistes expliquaient comment le Crédit Mutuel fait pour optimiser de l'argent, c'est-à-dire favoriser de l'évasion fiscale. C'est quand même symbolique et très grave que sa première action à la tête de Canal+, ça a été de censurer un sujet d'investigation. Ensuite, il a arrêté toutes les émissions d'investigation qu'il y avait sur Canal+, Lundi Investigation et autres. Donc on voit qu'à chaque fois que ces milliardaires prennent un média, leur première volonté, c'est de faire taire les journalistes. Dernier exemple en date, c'était le directeur de la rédaction du journal La Provence, donc dans le sud de la France, qui appartient à Rodolphe Saadé. Saadé, c'est un grand armateur de bateaux qui est multimilliardaire. Avec sa société, il commence à racheter des médias, donc il a acheté La Provence. Dernièrement, il a racheté aussi tout le groupe RMC et BFM, donc ça concerne les radios, mais aussi les chaînes de télévision. Bref, pour revenir sur l'exemple de La Provence, le directeur de la rédaction, ou en tout cas la rédaction, a fait une qui n'était pas glorieuse par rapport à l'opération d'Emmanuel Macron contre les trafics de drogue. Résultat, il était mis à pied. Et heureusement que la rédaction et beaucoup d'associations, dont l'OFALP, et Informé n'est pas un délit, à laquelle j'appartiens aussi, on s'est mobilisé pour, en dénonçant cette atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de travail des journalistes. Donc sa mise à pied a été arrêtée, mais il aurait pu être très très bien viré tout simplement. Le problème, c'est que derrière, ça envoyait un message très grave, c'est si vous ne respectez pas la ligne du propriétaire, eh bien, vous pouvez être viré. Alors, très souvent, on nous dit, oui, mais il est propriétaire du journal, il est propriétaire du média, c'est à lui, ça lui appartient. Sauf qu'une rédaction, c'est pas avoir une boulangerie, une cordonnerie ou un commerce classique ou une activité économique classique. Une rédaction, c'est là, c'est fait pour apporter des garanties à la démocratie. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'accès pour les citoyens à l'information. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc nous, c'est pour ça qu'on milite pour que les rédactions puissent avoir un statut juridique à part, une personnalité à part, et même qu'elles puissent avoir un droit d'agrément. Un droit d'agrément, c'est que le nouveau directeur de la rédaction qui arrive dans un journal soit élu par la rédaction. Si la rédaction n'en veut pas, le propriétaire du journal trouve un autre directeur de la rédaction. C'est absolument vital et important pour notre démocratie.
En effet, vous êtes un des fondateurs de l'OFALP, comme vous nous en avez parlé précédemment. Donc, je rappelle, Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, lancé en novembre 2023. Donc, vous nous avez un peu parlé du but de cet organisme. Mais est-ce que vous avez d'autres actions prévues pour permettre à la liberté de presse de rester plus stable dans notre pays ?
La mission principale de l'OFALP, donc cet Observatoire des Français des atteintes à la liberté de la presse, c'est de pouvoir avoir pour la première fois des données le plus fiables possible sur toutes les atteintes à la liberté de la presse. Ça va d'une administration qui refuse d'envoyer ses communiqués à une rédaction, c'est pas très grave, mais ça va aussi jusqu'aux menaces de mort, ou même, ça sera notre plus gros critère qu'on espère ne jamais devoir cocher, carrément le meurtre d'un journaliste. Parce que ça peut se faire. Ça fait longtemps que ça ne s'est pas fait en France, et heureusement, mais dans d'autres pays, ça peut se faire. Donc on a toute une graduation en fait des atteintes qu'on nous remonte avec tout un tas de bénévoles qui nous aident à travers tout le pays, et voilà. Et le but, ça sera de pouvoir faire un vrai classement de la liberté de la presse en France. Savoir quelles ont été les atteintes, de quelle nature elles ont été. La première année, ça va être intéressant, mais ça va être surtout intéressant les années suivantes, où on va pouvoir avoir des vraies tendances. Est-ce que la répression autour des journalistes s'intensifie ? Vous savez que quand on couvre une manifestation, que ça soit contre les méga-bassines à Sainte-Soline ou contre la réforme des retraites, très régulièrement, des journalistes finissent en garde à vue, tout simplement pour avoir fait leur travail. On est en France quand même, je le rappelle, c'est gravissime. Ça se passera en Russie, on dirait « Ah, Poutine, c'est un salaud ». Mais là, c'est en France, il faut rien dire. C'est quand même gravissime. Donc le but de l'OFALP, c'est vraiment de faire ça. Donc c'est vraiment un travail très long. Après, toute l'année, que ça soit à l'OFALP ou avec Informer n'est pas un délit, nous faisons des interventions régulièrement. Nous, on anime des conférences. Enfin, le but, c'est de sensibiliser un maximum le public à l'intérêt de défendre la presse. Et à quoi ça sert une presse libre ? Les médias, les journalistes, on est une des professions les plus mal aimées en France. Je crois que juste derrière nous, c'est les huissiers de justice, c'est vous dire à quel point la profession est appréciée. Mais cette profession est absolument vitale une nouvelle fois. Moi, je dis souvent qu'un lecteur devient ensuite un électeur. Mais un lecteur qui est mal informé devient un électeur qui vote mal. Donc c'est pour ça que la presse est vraiment, et les médias sont vraiment primordiales pour la démocratie. Et donc, pour revenir réellement à votre question, les actions en fait se font au cours de l'année. Ça passe par de la sensibilisation, mais aussi de la collecte d'informations et des tribunes qu'on essaye de publier régulièrement quand il y a des actions. Par exemple, quand il y a eu le directeur de la rédaction de La Provence, Informer n'est pas un délit, en lien avec le Front pour la presse libre. Il y avait Sherpa aussi, enfin il y avait tout un tas d'associations, de collectifs et de syndicats. Il y avait la CGT Philpac aussi, la SNJ-CGT, le SNJ Autonome et ainsi de suite. On a fait publier une tribune dans Le Monde aussi. Voilà, c'est ça nos modes d'action. C'est de la communication et de la sensibilisation.
Et en ce qui vous concerne, vous, plus personnellement, Jérémy Demey, est-ce que durant votre carrière, vous avez déjà été confronté à la censure ou à de la pression, vous empêchant d'exercer correctement votre activité ?
Oui, malheureusement, c'est peut-être aussi pour ça que je suis autant motivé et concerné par ce type de sujet. De la censure en tant que telle, non, parce que j'ai un caractère qui me permet d'éviter ce genre de désagréments. Et comme je vous le disais, vu que j'ai toujours travaillé pour plusieurs supports en même temps, quand parfois, pour X ou Y raison, une rédaction ne voulait pas de mon sujet, j'arrivais à le placer ailleurs. En revanche, oui, j'ai eu beaucoup de pression. Il y a quelques années, on m'avait dévissé de ma roue de voiture que j'ai perdue en roulant. Ma maison avait été visitée, j'avais été suivi, placé sous surveillance. Voilà, on avait fait des pressions sur mon patron de l'époque pour qu'il me licencie, parce que voilà, je faisais trop bien mon travail. Donc ça embêtait certains responsables économiques et politiques dans la région dijonnaise. Donc oui, j'ai eu ça, j'ai déjà fait aussi des interviews, ça c'était dans le cadre du Canard Enchaîné, où en plein milieu de l'interview, le monsieur que j'interviewais sort un gros pistolet, le met sur la table en me disant « Ah, ça me grattait le dos, désolé ». Donc ça, c'est des moyens de pression aussi. Voilà, malheureusement, ça arrive. Ça arrive très souvent. Là, je suis sur une enquête actuellement, où là, pour le coup, les pressions sont... arrive un petit peu de tous les côtés et ils font pression surtout sur mes sources ou sources éventuelles pour pas qu'on me réponde. Et comme je le disais tout à l'heure, si on n'a pas de source, nous, il n'y a plus de sujet. Donc il y a tout un tas de formes de pression, pour le coup, qui sont quand même assez embêtantes. Et le pire, c'est que très souvent, ça se passe plus au niveau du journalisme local que national. Au niveau national, il y a évidemment des pressions aussi, mais au niveau local, c'est encore plus compliqué parce que les élus, on les côtoie très régulièrement, ou les responsables économiques et autres, et ils se connaissent tous et ils durent très longtemps. Un ministre, on l'a pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou 7 ans si c'est Bruno Le Maire à Bercy, alors qu'un maire, généralement, malheureusement, avec le non-renouvellement des élus, on peut l'avoir pendant 15 ans, 20 ans. Donc si on est grillé avec lui, c'est très compliqué de travailler. Donc oui, les pressions, j'en ai eu, j'en ai encore, et j'en aurai certainement encore après.
Et donc, selon vous, en France, aucun journaliste n'est vraiment en sécurité lorsqu'il exerce son métier ?
Non, faut pas caricaturer non plus. Après, moi c'est vrai que je cherche la petite bête en faisant beaucoup d'investigations, surtout sur le milieu politique et économique. Après, tous les journalistes n'ont pas forcément cette vocation-là d'enquêter, et c'est très bien aussi, hein, c'est pas un mal. Et donc non, tous les journalistes ne sont pas en danger, tous les journalistes ne sont pas confrontés à des problèmes de liberté d'expression, mais ça tend à se compliquer de plus en plus. Une nouvelle fois, la concentration des médias n'aide absolument pas ce phénomène d'apaisement autour de la liberté d'expression. Plus l'hystérisation des débats actuellement, qui veulent toujours tout simplifier. Donc voilà, c'est pas toujours simple de pouvoir faire son travail correctement. On le voit en local aussi, notamment le groupe EBRA par exemple. Groupe EBRA, ça va de Strasbourg jusqu'à Lyon, à peu près au niveau des titres de presse papier, où les rédactions sont de plus en plus pressées, ou en tout cas très 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 contraintes au niveau des emplois du temps. Ils ont ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps de réellement tous travailler réellement leur sujet. Dans le même temps, on leur met aussi l'intelligence artificielle dans les pattes, plus tout un tas d'autres contraintes, ce qui fait que là, ils peuvent plus forcément bien travailler dans des vraies bonnes conditions de travail pour pouvoir amener des éléments factuels à leurs lecteurs. Donc, c'est pas réellement une atteinte à la liberté de la presse, mais ça peut quand même s'en apparenter ou s'en rapprocher, en tout cas doucement, ça c'est sûr.
Donc, comme on l'a compris, il y a beaucoup de choses problématiques qui posent atteinte à la liberté de la presse, comme la concentration des organes de presse. Mais au sujet des réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont eu un impact sur la liberté de presse ?
Non, pas sur la liberté de la presse en tant que telle, mais sur la manière d'aborder l'information. Ça vous aura pas échappé que sur les réseaux sociaux, que ça soit du Facebook, du YouTube ou ce que vous voulez d'autre, il faut, je vais peut-être parler un petit peu vulgairement, mais il faut du cul, du sang et des chatons. Et là, vous êtes sûr que ça va faire du clic. Et si ça fait du clic, ça veut dire que vous êtes de plus en plus vu. Et ensuite, les logarithmes qu'il y a derrière vont vous mettre en avant. Ce genre de programmation des logarithmes, en fait, favorise l'hystérisation des débats et donc d'occulter certains sujets vraiment graves, ou de passer tout de suite à un autre sujet parce que bon, ça a fait le buzz 2-3 heures, on passe complètement à autre chose. C'est surtout ça que ça a changé dans le rapport à l'information. Sur la liberté de la presse, non, ça a pas gêné, mais c'est vraiment sur l'endormissement du public vis-à-vis de ses attentes au niveau de l'information. C'est ça qui est fortement dommageable. Donc oui, ça c'est gênant. Et ensuite, ce qui est encore gênant derrière, c'est pour tous les droits intellectuels et propriétés intellectuelles, parce que très souvent sur les réseaux sociaux, ou même sur les GAFAM, hein, vous savez, Google, Amazon et autres, ils reprennent l'information, ne la sourcent pas et se l'approprient au final, en oubliant que derrière, il y a quelqu'un qui a travaillé quand même pour l'avoir. Donc ça, c'est aussi le problème. Donc sur la liberté de la presse, je ne pense pas, mais en tout cas sur la manière d'aborder l'information, oui, ça a malheureusement tout révolutionné, pas forcément dans le bon sens.
Et dans notre société où de nombreuses fake news circulent, notamment à cause des réseaux sociaux, comment faites-vous pour vérifier la véracité et l'authenticité de vos informations avant de les diffuser ?
Ça déjà, c'est juste obligatoire pour un journaliste de vérifier, mais aussi de contre-vérifier, c'est-à-dire d'ajouter une deuxième vérification sur toute publication. Alors si c'est, par exemple, je reçois un document qui me semble authentique, je dis n'importe quoi, de la Chambre régionale des comptes ou de la préfecture ou de je ne sais quoi, enfin d'une administration, il me semble authentique, mais c'est pas parce qu'il me semble authentique qu'il l'est. Donc je vais appeler l'administration puis leur dire mais c'est quoi ce document, en leur citant bah voilà les informations qu'il y a dedans, en me disant vous me confirmez bien que ce document daté de je ne sais quelle date, de machin, tout ça, il existe bien, c'est bien un vrai document. Donc là ils me disent oui ou non, ça ne nous dit rien, tout ça. Et même s'ils nous disent ça ne nous dit rien, nous ensuite on va essayer de retrouver l'auteur de ce document. Souvent ils sont signés. Donc on va le retrouver en disant mais pourquoi vous avez écrit ça dans le truc ? Et là s'ils nous disent bah oui mais j'ai écrit ça parce que voilà, on sait que le document il est vrai. Donc ça c'est juste obligatoire. Et ça demande de se renseigner, d'appeler, de contacter les personnes les plus proches de l'information pour en être sûr. Et pour pouvoir s'avancer tout doucement vers la vérité, parce que ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est un débat philosophique qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Mais en tout cas, se rapprocher le plus de l'honnêteté vis-à-vis du document et de l'information.
Merci beaucoup Jérémy Demey d'avoir été notre invité et de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux du métier de journaliste et les problématiques qui entourent notamment la liberté de presse.
Bien, merci à vous pour l'invitation.
C'est la fin de cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés sur BAC FM. Au revoir.
Au revoir.